Merci beaucoup, Pierre, de l'accueil. Je remercie aussi Thierry de m'avoir fait cette proposition, de pouvoir vous faire cette petite causerie. Alors, il y a un paradoxe dans le sujet même qui nous occupe de la miséricorde selon saint Jean, c'est que la plupart des révélations privées sur la miséricorde, sur le Sacré-Cœur, sur le cœur de Jésus, s'appuie sur l'image du cœur transpercé qu'on trouve en Jean 19, 34. Et donc on se dit, youpi, la miséricorde, tu vas trouver ça à toutes les pages de l'évangile de Jean. Et puis on tourne les pages de l'évangile, on tourne les pages de l'évangile, on cherche le mot et on ne le trouve pas. Et là, on entre, même si on est doctorant et que ça fait 8 ans qu'on travaille l'évangile de Jean, on entre dans une perplexité assez intense en se disant, mais mon Dieu, finalement, où donc va-t-on trouver la miséricorde? Jean parle-t-il réellement de la miséricorde? Et là, une lecture attentive du prologue de Jean nous montre que, contrairement à quelques idées reçues, dans le prologue, Jean ne fait pas œuvre d'un philosophe grec dissertant sur un logos abstrait, mais Jean enracine son évangile dans le livre de l'Exode. Le Verbe s'est fait chair, il a dressé sa tente au milieu de nous. Cette tente qui est celle de la rencontre. Mais la véritable tente de la rencontre n'est plus celle qui était dressée hors du camp par Moïse. Mais la tente de la rencontre, c'est l'humanité même de Jésus. Alors, l'idée vient d'aller regarder dans le livre de l'Exode au chapitre 33. Puisque Jean nous dit, après avoir affirmé qu'il a dressé sa tente parmi nous et nous avons vu sa gloire, eh bien, on entend le même appel dans l'Exode quand Moïse dit à Dieu, c'est la première citation que je vous ai mise sur la feuille de route. Moïse dit au Seigneur, « Fais-moi de grâce voir ta gloire. » Et le Seigneur lui répond, « Ce que tu viens de dire, je le ferai aussi car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Je ferai passer sur toi tous mes bienfaits et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. J'accorde ma bienveillance à qui je l'accorde, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et ce que le Seigneur proclame, le Seigneur le réalise au chapitre 34 de l'Exode, versets 6 à 9. C'est la deuxième citation sur votre feuille de route. Le Seigneur passa devant lui et proclama, « le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. » Alors du coup, je me suis dit que ça nous ferait une clé de lecture valable de l'évangile de Jean pour chercher ce que Jean dit et perçoit de la miséricorde à travers la gloire. On sait à quel point la révélation de la gloire traverse tout l'évangile de Jean. Eh bien, est-ce que c'est pas en pénétrant le regard de Jean sur la gloire qu'on comprendra ce qu'il veut, ce qu'il entend par miséricorde ? Du coup, nous allons procéder en deux temps. D'abord, regarder le livre, ce qu'on appelle le livre de l'heure, c'est-à-dire la deuxième partie de l'évangile de Jean, qui donne les récits de la passion et de la résurrection. Et puis, après avoir parcouru quelques passages où la gloire nous est révélée, eh bien, nous allons pouvoir jeter un petit regard rétrospectif sur le début de l'évangile pour voir que, en fait, nombre des rencontres de Jésus dans l'évangile de Jean sont comme des illustrations de la miséricorde qui l'habite et qui sera pleinement révélée à la croix. Si on regarde donc le début du chapitre 13, déjà à la fin du chapitre 12, Jésus avait demandé: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Et le chapitre 13 commence ainsi, avant la fête de la Pâque. Jésus, sachant qu'était venue son heure de passer de ce monde-ci vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima, eis telos, vers une fin, jusqu'au bout, vers la plénitude. Alors, il faut se rendre compte de la dimension dramatique qu'il y a dans ce chapitre 13. Le Seigneur veut aimer les siens jusqu'au bout. Mais dès le verset 2, Jean nous dit, alors que le diable avait au cœur que Judas Iscariote le livrerait. Vous savez, la plupart des traductions disent alors que Judas avait déjà dans le cœur, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas l'intention de le livrer. Oui, bah si Judas a déjà l'intention de le livrer, on peut passer au chapitre 14, le chapitre 13 n'a absolument aucun intérêt. Si tout est fait, alors on ne voit pas pourquoi le Seigneur se casse la tête à laver les pieds de ses disciples, puisque Judas a déjà tout décidé. C'est beaucoup plus dramatique que ça, beaucoup plus intense que ça. Alors que le diable avait dans son cœur que Judas livrerait Jésus. Vous voyez, il y a cette espèce de tension dramatique entre l'intention de Jésus qui va vers le Père et le diable qui s'oppose à cet amour, eistelos, et qui met son dévolu sur Judas. Judas, ce disciple, ce choisi, il est l'élu. Au chapitre 6, la première fois qu'on nous parle de Judas comme traître, Jésus dit, je sais qui j'ai choisi. Et Judas, il est choisi. Et vous voyez, le cadre de la révélation de la miséricorde, c'est cette tension, ce drame qui existe entre Jésus, qui veut aimer les siens jusqu'au bout, et le diable qui a au cœur que Judas livre Jésus. Et Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, c'est le verset 3, qu'il vient de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, dépose ses vêtements et mettant de l'eau dans un bassin, commence à laver les pieds de ses disciples. C'est très important de se rendre compte que quand Jésus se lève de table, il sait que le Père lui a tout remis entre les mains. Il sait qu'il porte une responsabilité réelle. Il sait d'où il vient. Il sait où il va. Le lavement des pieds est donc un geste souverain. C'est la suprême liberté de Jésus, qui sait toute la responsabilité d'amour qu'il a. Et Jésus, se levant, dépose ses vêtements. Ce mot utilisé ici par Jean, déposer les vêtements, c'est le verbe grec titémi. Et ce verbe grec titémi, il est extrêmement important parce qu'il va revêtir ici une valeur symbolique. Au chapitre 10, versets 17 et 18, Jésus dit « Voilà pourquoi le Père m'aime. » Parce que j'ai le pouvoir de déposer ma vie et de la reprendre. Et au chapitre 15, verset 16, Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci. Déposer sa vie pour ses amis. Ainsi, quand Jésus se lève et dépose ses vêtements, c'est comme un signe précurseur de ce qu'il veut réaliser, en déposant sa vie pour les siens. Évidemment, Jésus lave les pieds des 12. Ça veut dire qu'il lave autant les pieds du disciple bien-aimé que les pieds de Judas. Autant les pieds de Pierre que les pieds de Judas. Et le père Yves Simons a de très belles pages sur cette rencontre entre Jésus et Judas dont l'évangéliste ne nous dit rien. Voici ce que dit le père Simons. Disciple particulièrement menacé, Judas est l'objet de la part de Jésus d'une attention unique. Ceci est négligé si l'on écrase l'un sur l'autre le diable et Judas. C'est ce que je vous disais. Si l'affaire est déjà réglée dans le cœur de Judas, on ne voit pas la menace que Judas encourt et on ne voit pas l'intention salvatrice de Jésus à son égard. Or, il faut tenir compte de l'insistance de Jean sur l'amour, sur l'agapé. Elle est au premier plan dans le comportement de Jésus. C'est bien là le paradoxe. Que Jésus puisse aimer celui qui manifestement ne l'aime pas. En portant ainsi l'agapé à son achèvement, Judas peut donc rester l'élu. Oui, l'amour jusqu'à l'achèvement, c'est un amour capable d'aimer celui qui n'aime pas. C'est un amour capable de ne pas se laisser arrêté par l'absence de réponse. C'est un amour qui veut répondre à l'abîme. Faut s'imaginer le drame du cœur de Judas qui dure depuis longtemps, puisque déjà au chapitre 6, à mon avis, il aurait bien voulu partir avec tous ceux qui sont partis en disant « Cette parole est trop dure, qui peut l'entendre ?» C'est la première fois, à la fin du discours sur le pain de vie, que Jean nous dit que Judas est traître. Et il n'a pas osé partir. Donc ça fait des mois ou des années qu'il ronge son frein. Ça fait des mois et des années qu'il vit le scandale. Judas, c'est un zélote. C'est quelqu'un qui attendait que le Messie soit puissant, que le Messie boute hors de la Terre Sainte l'occupant romain. Et voilà que ce Messie si puissant, il se fait faible, il se fait petit, il se laisse oindre les pieds par une femme. Que de contradictions, que d'incompréhension de cet amour puissant qui, parce qu'il est puissant, n'a pas peur de s'abaisser. Et c'est ça le drame du cœur de Judas, c'est ça qui fait de Judas le disciple menacé. Et c'est pour lui peut-être que l'amour va atteindre son achèvement dans le lavement des pieds. Parce que sinon, comment comprendre cette réaction si étrange ? Alors que Judas vient de quitter la salle du repas, en 13:31, Jésus proclame « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. » C'est les versets qui sont juste en haut de la page 2. Dès que Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Dieu le glorifiera en lui-même et c'est bientôt qu'il le glorifiera. » Comment comprendre cette manifestation de la gloire si ce n'est que, justement, la trahison de Judas, le drame de Judas, n'a pas réussi à arrêter ou à engloutir l'amour eistelos, que, au contraire, l'amour jusqu'à la fin, l'amour glorifié de Jésus, a été capable d'englober, d'engloutir la trahison de Judas. En cela, il y a une véritable manifestation de la gloire. Souvenez-vous de la manière de ce que dit Dieu au buisson ardent lorsqu'il révèle son nom à Moïse. J'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Eh bien, il est descendu au pied de Judas pour le délivrer. N'est-ce pas le propre de l'amour glorifié, n'est-ce pas le propre de la miséricorde, que de voir la misère et de ne pas avoir peur de se faire plus petit que la brebis perdue pour pouvoir aller la chercher? N'est-ce pas le propre du mystère pascal que de transformer ce qui est la trahison en l'occasion de l'amour jusqu'à la fin. Et c'est en cela que le lavement des pieds de Judas glorifie Jésus, parce qu'il manifeste la puissance de son amour. Il manifeste que rien ne pourra arrêter ce dessein rédempteur de Dieu. Jésus, sachant d'où il vient et où il va, aime Judas jusqu'au bout. C'est intéressant, du coup, de s'arrêter un moment sur le signe de la bouchée. Parce que finalement, Jean est le seul à nous montrer pourquoi Judas a finalement trahi. Parce que si tremper la main dans le plat, c'est juste un signe, c'est très bien, mais ça ne nous dit pas grand-chose. Pourquoi ? C'est précisément en prenant la bouchée que Judas trahit. Parce que prendre la bouchée, la tremper dans le vin et la donner est, dans les traditions orientales, le plus grand signe de l'amitié. Et Judas a pris, Jésus a pris la bouchée, Judas l'a reçue. Ça veut dire que Judas a reçu de la part de Jésus le signe de l'amitié. Et il a reçu le signe de l'amitié alors qu'il était finalement loin de Jésus. Il n'était déjà séparé de lui intérieurement. Et donc, il a trahi le geste de l'amitié du Christ. Mais ce qui est parfaitement paradoxal, c'est que c'est au moment de la trahison de Judas que l'évangéliste manifeste la figure du disciple bien-aimé. Imaginez le paradoxe, imaginez le drame. Si Jésus a pu prendre la bouchée et tendre la main, ça veut dire que Judas était juste à côté de lui et que de l'autre côté était le disciple bien-aimé qui était tout ento colpo dans le sein de Jésus. Vous voyez, la plupart des représentations picturales de la Sainte Seine vous mettent Saint-Pierre bien à sa place à droite, mais non, il n'était pas tout à côté de Jésus, c'est pour ça qu'il a eu besoin du disciple et de lui parler en signe pour qu'il dise « demande qui c'est ». Non, à la dernière scène, d'après Jean, vous avez d'un côté le disciple bien-aimé, de l'autre côté le traître. Quel contraste, finalement, de l'agapé, quel contraste de l'agapé jusqu'au bout, d'avoir à son côté le traître et le disciple. Le disciple bien-aimé dont on nous dit il est dans le sein de Jésus, ento kolpo. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot saint, kolpos, en grec, il se retrouve dans l'évangile de Jean uniquement dans le prologue. Le Verbe est vers le sein du Père. Et là, le disciple est dans le sein. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une situation géographique, c'est pas seulement une position, puisqu'il va dire après qu'il va se renverser sur la poitrine. C'est dire que vous avez d'un côté le traître assailli par les pensées du diable, et de l'autre côté, le disciple qui est dans la pensée du Christ, qui est dans le sein du Christ, qui est dans son intention, qui est dans son intimité. Et peut-être cela contribue-t-il aussi à la manifestation de la gloire. Et le disciple bien-aimé est une autre figure de l'amour, jusqu'au bout de l'amour reçu. Vous avez d'un côté l'amour jusqu'au bout qui n'est pas reçu, et de l'autre côté l'amour jusqu'au bout qui est reçu. Ce qui veut dire que, au fond, on va pouvoir parler réellement de l'amour jusqu'au bout ou de l'amour glorifié comme synonyme johannique du mot de miséricorde. Et la miséricorde, c'est un amour sauveur, c'est un amour qui n'a pas peur de descendre, c'est un amour qui, parce qu'il sait qu'il est puissant, qui, parce qu'il sait qu'il est efficace, est capable de s'abaisser pour relever celui qu'il aime. L'amour miséricordieux, il se fait proche. Proche de la brebis perdue, proche du disciple bien-aimé. J'ai vu la détresse de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Alors, c'est pas tout ça. Mais on voit bien que Pierre a pas franchement compris ce qui se passe. Et Jésus leur dit au verset 15, chapitre 13, « Avez-vous compris ce que je vous ai fait ?» Et là, on se dit « Super, il va nous commencer un beau discours théologique sur la signification du lavement des pieds. » Ben, rien du tout. Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire, leur dit « Ben, faites la même chose, vous comprendrez. » Ah ah. Et ce qui est très impressionnant, c'est que là, quand Jésus transmet le lavement des pieds, il dit « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Eh bien, si moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez de même. » Ça veut dire que le lavement des pieds mutuel, c'est un ordre du Christ souverain. C'est pas juste une petite recommandation, si vous avez le temps le jeudi saint, vous le ferez. Et d'ailleurs, Jésus dit pas vous le ferez à tous ceux à qui vous serez envoyés. Non, vous le ferez les uns les autres. Le lavement des pieds, c'est un geste communautaire. Et au fond, du coup, j'oserais aller jusque-là. Si on regarde, alors je ne vais pas vous faire tout ça parce que sinon il va me falloir 3 heures. Si on regarde la structure du chapitre 13, vous vous rendez compte que, en fait, le lavement des pieds est mis en parallèle avec le verset 34. Et le verset 34, c'est quoi? C'est le commandement nouveau. D'un côté, Jésus donne le geste et l'ordre. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. De l'autre côté, il leur dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et ce qui est très impressionnant, c'est que, au fond, Jésus lave les pieds de ses disciples pour qu'ils aient l'expérience de la passion. À Pierre, qui ne comprend pas pourquoi Jésus leur lave les pieds, il répond « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Et se laisser laver les pieds par Jésus, c'est entrer dans la dynamique de la passion. C'est devenir disciple du Christ dans la dynamique de la passion. Et à la fin du chapitre 13, Jésus leur dit « Vous ne pouvez pas, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. » Catastrophe. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Finalement, le commandement nouveau, avec son pendant du geste du lavement des pieds, est la nouvelle manière pour les disciples d'être disciples. Il n'y a pas moyen d'être disciple du Christ après Pâques si on ne vit pas du commandement nouveau dans le lavement des pieds mutuel. Ça veut dire que si le lavement des pieds, il est le geste de l'amour glorifié, il est le geste de l'amour jusqu'au bout, la structure communautaire de l'Église, allez, j'ose le dire, je regarde le Père Gervais en disant ça, la structure communautaire de l'Église, telle que Jean la voit et la veut et la dit, c'est la miséricorde. C'est l'exercice structurel du commandement nouveau et du lavement des pieds. Alors là, on peut se poser la question, comment ça se fait que le lavement des pieds ait une place si accessoire aujourd'hui dans l'Église? Bon, après, vous me direz, ah ouais, mais on garde le contenu, c'est que symbolique et tout. Jésus n'a pas dit c'est que symbolique. Bref. Bon. On va éviter d'entrer dans la polémique maintenant, parce que si j'entre là, on n'en sortira plus. Vous voyez, donc, la miséricorde, l'amour eistelos que Jésus a vécu à l'égard de ses disciples, les disciples sont appelés à vivre le même dans l'amour mutuel. Et c'est vivre l'amour mutuel, c'est comme cela qu'ils entreront dans le mystère pascal. Et ça, c'est très important de voir le lien qui existe entre le lavement des pieds, le commandement nouveau et le mystère pascal. Parce que si l'amour, il est vers une fin, vers un achèvement, vers une plénitude, où est la plénitude? Alors, ce qui est extrêmement intéressant, si on regarde le chapitre 15, parce que le chapitre 15 relie le commandement nouveau, hein. Jésus insiste, hein, chapitre 15, verset 12, « Tel est mon commandement, le mien, que vous vous aimiez les uns les autres. » Ce qui est très intéressant dans la structure et dans l'image de la vigne, c'est que la vigne dit la vie. La communion fraternelle, la communion mutuelle, la communion réciproque, elle est une condition sine qua non de vie. Et ça, c'est très important, parce que la miséricorde, l'amour glorifié, l'amour jusqu'à la plénitude, ne doit pas être regardé du côté moral. C'est, on n'est pas appelé à faire des bonnes œuvres, vous voyez. Hein? Allez, hein? C'est l'année de la miséricorde, on va faire des bonnes œuvres. Ah bah, dame, on donne une piécette de plus. Ben, on n'a pas fait grand-chose, quoi. Si, se donner bonne conscience. Mais vous voyez, l'amour, jusqu'au bout, il est de l'ordre de la vie. Il est de l'ordre de l'existence. Il n'est pas de l'ordre de l'accessoire. Et c'est ça, l'apport propre de l'image de la vigne par rapport au lavement des pieds et au commandement nouveau tel qu'il est formulé dans le chapitre 13. C'est de dire, c'est de l'ordre existentiel. C'est pas de l'ordre accessoire. Alors, vous me direz, c'est bien de regarder l'amour jusqu'à la plénitude, mais maintenant on va regarder la plénitude de l'amour. Ça, c'est le troisième point sur votre feuille de route. L'amour accompli à la croix. Début du chapitre 13, il est dit que Jésus a aimé les siens, eis telos, vers un accomplissement. Où a-t-il dit c'est accompli? Chapitre 19, verset 30, sur la croix. Et voyez, il y a cette grande courbe dans l'évangile de Jean, entre le début du chapitre 19 et le début du chapitre 13 et le chapitre 19, de l'amour vers la plénitude à l'amour accompli sur la croix. La scène de la crucifixion de Jésus est répartie en 6 tableaux. Est-ce que je vous ai mis les 6 tableaux sur la feuille de route? Oui. Et vous voyez, vous avez les 6 tableaux forment un chiasme, c'est-à-dire que les extrêmes se rencontrent et puis le centre. Le premier tableau, et on va le regarder un tout petit moment. Le premier tableau, c'est Jésus qui est livré. Ah, mais ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que il est dit dans le verset 16, on va regarder juste ce verset 16 dans ce tableau-là. Alors donc, il le leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Le verbe livrer, c'est en grec paradidomi. Mais paradidomi, c'est le même verbe qui a été utilisé pour parler de la trahison de Judas. Judas a trahi, paradidomi, il a livré. Ici, Pilate livre Jésus aux soldats. Mais Jésus, mourant sur la croix, va livrer l'esprit. Paredoken topneuma. Et est-ce qu'on n'a pas là un signe de l'amour accompli, qui est capable de se servir de la trahison, de se servir de la passivité de la crucifixion, puisqu'il est saisi par les soldats, pour livrer sa vie, pour livrer son esprit. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils le prirent donc. Et là, c'est le verbe grec paralambano, parelabon. Et c'est étonnant parce que ce verbe-là fait écho à un verset du prologue, chapitre 1, verset 11. Jésus est venu, il est venu chez les siens, le verbe, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, parelabon, ou parelabon. C'est étonnant, hein? Les siens ne l'ont pas reçu, et ici, à la crucifixion, les soldats le saisissent. Quel drame du point de départ au terme de l'évangile. Et ces deux verbes, hein, donner, recevoir, reviennent soit dans leur forme simple, soit dans leur forme avec des composés, avec des préfixes, reviennent tout au long de l'évangile pour dire, finalement, la lumière se donne, la lumière vient, le verbe se donne. Serons-nous capables de le recevoir ou au contraire, de le trahir? Et c'est toute la dynamique, finalement, la dynamique du dessein divin, la dynamique du dessein de salut, la dynamique du projet de Dieu et le drame de la liberté humaine. Au cœur de l'évangile de Jean, il y a le drame de la liberté humaine. Et ce drame de la liberté humaine, il est, je prends drame au sens théâtral, hein, au sens baldassarien, c'est-à-dire le déploiement de la liberté humaine, et elle est nécessaire pour manifester la miséricorde. Sans gratuité, sans liberté, pas de miséricorde. Premier paradoxe. On va relever trois paradoxes. Premier paradoxe, il n'est pas reçu par les siens, il est saisi par les soldats. Deuxième paradoxe, je le prends de la scène B et de la scène C. La scène B, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Et les deux scènes sont mises en relation avec la particule « men » d'un côté, « des » de l'autre côté. D'un côté, de l'autre côté. D'un côté, vous avez quatre soldats. De l'autre côté, vous avez quatre femmes. Les soldats, ils sont certainement très proches de Jésus, puisqu'ils sont assez proches pour lui saisir les bras et pour le crucifier. Et pourtant, il n'est pas dit, comme pour les femmes, qu'elles se tiennent près de la croix. C'est très étonnant. Elles sont sans doute géographiquement plus loin que les soldats. Et pourtant, l'évangéliste dit, elles se tiennent près de la croix. Autre paradoxe dans lequel l'amour glorifié va pouvoir se déployer. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que, et quand on prie le chemin de croix, on dit Jésus est dépouillé de ses vêtements. Jean est beaucoup plus sobre que ça. On lui prend ses vêtements. Toujours le même verbe, lambano. Vous voyez, quand il a lavé les pieds de ses disciples, il a lui-même déposé ses vêtements. Ici, c'est les soldats qui lui prennent ses vêtements. Comme si, finalement, extérieurement, il n'avait plus aucune liberté. Il est saisi par les soldats. Ce sont les soldats qui lui prennent ses vêtements. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'il n'y a que Jean, dans les quatre évangiles, qui mentionne ce fait que les soldats prennent les vêtements. Dans les synoptiques, j'ai été vérifié avant de vous le dire, hein, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Dans les synoptiques, on vous dit que les vêtements sont tirés au sort. Il y a deux spécificités dans l'évangile de Jean, c'est qu'il est le seul à dire qu'on lui prend ses vêtements, et il est le seul à parler de la tunique sans couture. Et, alors vous me direz, oui mais c'est rien ça, c'est un petit détail. Oui mais c'est pas si un détail dans l'ensemble du récit, où finalement c'est dans la non-liberté la plus totale que Jésus va pouvoir aimer jusqu'au bout. Alors, donc, je vous disais, d'un côté les quatre soldats, de l'autre les quatre femmes. Alors souvent, quand on parle de la présence de la mère de Jésus au pied de la croix, on dit « Ah, ben vous voyez bien, il fallait bien que Jésus s'occupe de l'avenir de Marie, parce que Marie, elle serait toute seule après. » Taratata. On vous explique que Marie, elle est là au pied de la croix avec sa sœur et la sœur de sa sœur. Enfin, donc, elle a sa famille, là. Et sa famille est là au pied de la croix. Sa famille ne l'a pas abandonnée au pied de la croix. Donc elle n'a absolument pas besoin que Jésus s'occupe de ses affaires. Si Jésus regarde sa mère et regarde son disciple, c'est qu'il a tout autre chose à faire vivre. Et c'est tellement étonnant. On lui prend ses vêtements et il donne sa mère. Et quand il ne lui reste plus rien, il lui reste encore à regarder sa mère. Et d'ailleurs, il ne regarde pas sa mère, puisqu'en 1926, le texte grec, c'est « la mère ». Et alors, j'ai même été vérifié dans les apparats critiques, je n'ai vu, sur les six versions que j'ai vues, des six versions grecques, il n'y en a pas une qui a le possessif. C'est étonnant quand même. Il regarde la mère et il regarde le disciple. Et ça, c'est le verset 26. Et au fond, il fonde là, au pied de la croix, la nouvelle famille, la nouvelle oikos, la nouvelle oikia, qui va être capable de célébrer le mystère pascal. L'oikia nouvelle pour la Pâque nouvelle. C'est ça que Jésus fait. Et est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de très, spécifique de l'amour miséricordieux? On le dépouille, il donne. Si quelqu'un te réclame ton manteau, donne-lui ta tunique. Si quelqu'un veut faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Ne te dérobe pas à qui te demande. Finalement, ce discours sur la montagne, est-ce qu'il ne l'a pas accompli ici, à la croix? Ce qui est très impressionnant, c'est que précisément, dès cette heure-là, le disciple a pris eis ta idia dans son intimité. Et quand je vous citais tout à l'heure le chapitre 1, verset 11, il est venu chez les siens, il est venu eis ta idia. Il est venu dans son domaine, il est venu chez ses proches, et les proches ne l'ont pas reçu. Ici, le disciple et la mère reçoivent la parole de Jésus. Voici ta mère, voici ton fils. Et en recevant la parole de Jésus, ils l'accomplissent. Dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Et là, au pied de la croix, il y a une nouvelle expression du commandement nouveau. Marie, la mère de Jésus, et le disciple au pied de la croix ne peuvent vivre du mystère de la passion qu'en se regardant l'un l'autre, qu'en acceptant de s'accueillir l'un l'autre. Et ils n'accueilleront Jésus, ils n'accueilleront l'amour jusqu'au bout qu'en se regardant l'un l'autre. C'est la dynamique propre de l'amour jusqu'au bout, selon l'évangile de Jean. Ce que moi j'appelle finalement l'amour miséricordieux, l'amour glorifié. Ça, c'était le deuxième paradoxe, du dépouillement au don. C'est au moment où il est extérieurement le moins libre que Jésus va pouvoir faire l'acte le plus libre, donner sa mère. Et après cela, nous dit l'évangéliste, chapitre 19, verset 28. Là, vous avez le texte à la page 3. Hein. Le passage, le dernier paradoxe, c'est le passage de la mort à la vie. Après cela, sachant que tout était accompli, que tout était achevé, et pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit : j'ai soif. C'est tellement étonnant. Comment est-ce qu'on peut imaginer ? Alors bien sûr, c'est la soif. Vous savez, c'est typique de l'écriture joannique. Hein. Il y a toujours un double niveau. Il y a toujours un niveau humain, concret, matériel, simple. J'ai soif. On sait que les crucifiés étaient assoiffés, que c'était bon. Ok. Mais quand on pense que celui qui est là et qui dit j'ai soif, c'est celui qui a dit à la Samaritaine, si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui l'aurais demandé et il t'aurait donné l'eau vive. Et celui qui se prétendait capable de donner l'eau vive, il dit j'ai soif. Et il dit j'ai soif pour que l'écriture parvienne à sa plénitude. Pour que la révélation du dessein divin parvienne à sa plénitude. C'est tellement étonnant. Vous savez, c'est comme finalement l'achèvement de Dieu qui va à la recherche d'Adam. Adam, où es-tu ? C'est Dieu qui descend auprès de Moïse. J'ai vu la misère de mon peuple. Vous voyez, toutes ces initiatives de Dieu qui vient à la recherche de l'homme. Et au moment où Jésus n'est plus capable d'initiative, il peut encore exprimer Dieu qui va à la recherche de l'homme en disant « j'ai soif ». Ce qui est aussi extrêmement impressionnant, c'est de rapprocher ce « j'ai soif ». Alors, la plupart des spécialistes vous font des circonvolutions pour vous expliquer qu'il y a une racine dans le psaume 69, parce que là, il y a dans le psaume 69, il y a le verset 22, il y a le substantif dipsa, la soif, et que là, il dit dipso, elle a dit c'est certainement ça, taratata. C'est un peu simple, à mon avis, c'est un peu simple. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que l'épisode du rocher, puisque l'épisode du rocher, on va le retrouver juste après. À l'épisode du rocher, le peuple eut soif. Et le peuple cria sa soif à Moïse dans le désert. Et là, c'est Jésus, au nom de tout le peuple, qui va dire « j'ai soif ». Et ce qui est très impressionnant, c'est que le peuple ayant crié sa soif dans le désert, Moïse frappe le rocher par deux fois. Et là, Dieu se fâche. Alors vous savez, comme les rabbins doivent quand même toujours sauver la face de Moïse, et il faut bien comprendre quand même pourquoi Moïse a péché là, en tapant deux fois sur le rocher. Et bien figurez-vous que certains targoums disent qu'en fait, Moïse a frappé deux fois parce que la première fois du rocher est sortie du sang. Et que juste après avoir mis dans la bouche de Jésus « j'ai soif », Jean va nous montrer le côté transpercé d'où il va jaillir du sang et de l'eau. Et au fond, Jésus est à la fois le peuple assoiffé et le rocher qui désaltère. Et est-ce que on n'a pas là un signe de l'amour jusqu'au bout, de l'amour glorifié, que d'être capable de porter la misère Et en portant la soif, en portant la détresse, en portant la misère, de lui donner la réponse par le cœur transpercé. Alors peut-être on comprend pourquoi le côté transpercé devient l'icône de l'amour glorifié, de l'amour jusqu'au bout. Parce que c'est une fois que Jésus a dit « j'ai soif » que l'Écriture est accomplie et qu'il peut dire lui-même « tout est accompli ». Ça voudrait dire que, au fond, l'amour glorifié est le dernier mot de la révélation. Alors, il n'y a pas que la Caritas qui nous presse, il y a le temps qui nous presse aussi. De ce côté transpercé, vous savez qu'il a fait couler beaucoup d'encre, d'où ça vient. Et finalement, les spécialistes, après avoir, je ne sais plus combien de pages j'ai lues sur le côté transpercé et sur les racines vétérotestamentaires des promesses de l'eau vive, hein, celui de son sein couleront des fleuves d'eau vive, et puis finalement, personne ne sait toujours pas d'où ça vient. Mais c'est parce que dans le côté transpercé, il ne s'agit pas d'accomplir une parole de l'Écriture ou l'autre. C'est toute l'Écriture qui converge vers l'amour miséricordieux. C'est toute l'Écriture qui converge vers l'amour glorifié. Alors, je vous lance comme ça une piste. Ce qui est très intéressant, c'est que dans Jean 7, de son sein couleront des fleuves d'eau vive, hein, Kolia. Le saint, c'est un des mots donnés pour la matrice maternelle. Et est-ce qu'on ne devrait pas rapprocher ce mot de kolia, qui devient du coup le signe de la miséricorde, des splanka, du mot splanka et splanknitzein, utilisé par, c'est un verbe que saint Luc aime beaucoup pour parler de la miséricorde. C'est le mot qu'il utilise pour dire que le bon samaritain est touché aux entrailles par l'homme qui est mort au bord, qui est gisant au bord de la route. C'est le père qui est touché aux entrailles par son fils qui revient. C'est Jésus qui est touché aux entrailles par la veuve de Naïm qui pleure son fils. Et de ses entrailles, là, de ce koilia, coulent des fleuves d'eau vive. Alors, si vous voulez, vous pourrez avoir le texte si vous voulez un peu plus de détails, parce que là, je vais faire un énorme saut. Je vais vous donner juste ma conclusion pour vous dire que, au fond, ce qui est capital dans le récit johannique de la crucifixion, c'est la convergence entre la mort et la vie. De la mort jaillit la vie. Parce que les fleuves d'eau vive, le sang et l'eau qui jaillissent, c'est bien cette convergence de la mort et de la vie. Vous savez d'ailleurs que on transperçait le cœur des agneaux et de l'agneau pascal pour finir de le vider de son sang. Et donc si Jean nous rapporte ça, alors qu'il nous dit justement que alors qu'on sait que dans la chronologie johannique, Jésus meurt au moment où les agneaux sont immolés dans le temple. Le sang et l'eau qui coulent du côté transpercé, c'est le sang et l'eau qui coulent du côté de l'agneau pascal. Ce qui est aussi très intéressant, on a dit ici, Jean utilise le mot pleurane. Ben pourquoi il n'a pas réutilisé kolia ou kolpos, des mots qu'il avait déjà utilisés? Comme ça, au moins, on saurait qu'il y a un lien direct entre les deux. Mais ce qui est très intéressant dans ce pleurane, c'est que, en fait, c'est quasiment un apax du Nouveau Testament. Il est utilisé 5 fois dans le Nouveau Testament, dont 4 fois dans les récits de Saint Jean, de la mort et de la résurrection. Sinon, il est utilisé qu'une seule fois dans les Actes. Et en fait, quand on regarde toutes les occurrences où la Septante a utilisé le mot pleuran, soit ça dit le côté d'un objet, soit ça dit le flanc d'un homme, mais il y a deux moments où il y a un rapport symbolique explicite, c'est pleuran, c'est la côte d'Adam. C'est le même mot. Et pleuran, c'est le côté du temple, d'où coule l'eau. Donc vous voyez, en utilisant ce mot, qui n'est aucun des deux mots qu'il avait déjà utilisé pour nous dire l'amour de Dieu, pour nous dire l'amour du Christ, pour nous dire les fleuves d'eau vive, il nous montre à quel point l'eau et le sang, c'est la symbolique qu'avaient vu les pères de l'Église, hein, du côté d'Adam endormi sur la croix est née la nouvelle Ève. La mort de Jésus, elle est recréatrice. L'eau et le sang qui coulent du côté. Comme Ève a été créée, bâtie, elle a été bâtie à partir du côté d'Adam. La vie nouvelle, elle coule du côté transpercé de l'Adam endormi sur la croix. Et ça, c'est une des spécificités de la miséricorde. Si l'amour glorifié, il a pour propre d'utiliser toutes les contradictions pour se donner, l'amour glorifié, il est recréateur. L'amour accompli, il recrée. Encore une fois, on n'est pas dans l'ordre moral, on est dans l'ordre existentiel, vivant, vital. Alors, il me reste 5 minutes. Et vous savez, comme la gloire c'est l'heure, je ne peux pas ne pas regarder la montre. La gloire se manifeste au moment où l'heure advient. L'heure advenant, il faut quand même. Du coup, je voudrais un tout petit regard rétrospectif sur. Alors, on pourrait en faire trop. On pourrait regarder trois moments. Comme le temps presse, on va en regarder un. Trois moments dans le début de l'évangile de Jean. Le premier moment, c'est évidemment les noces de Cana, puisqu'on nous dit qu'il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. En regardant les noces de Cana, qu'est-ce que ce miracle des noces de Cana nous dit de l'amour glorifié ? Premier lieu qu'on pourrait regarder. Deuxième lieu qu'on pourrait regarder, c'est le chapitre 5. Parce que dans le chapitre 5, il a cette phrase « L'heure vient et c'est maintenant. » À l'heure et la gloire, c'est toujours concomitant dans l'évangile de Jean. « L'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ressusciteront. » Eh bien, au fond, l'œuvre du Fils, c'est de donner la vie. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et le Fils donne la vie à qui il veut. Et donc le propre de l'amour glorifié, c'est de donner vie. Alors, si j'avais du temps, je vous montrerais comment la mission des disciples au chapitre 20 s'inscrit exactement dans cette dynamique de donner vie. Le pardon des péchés est lié au don de la vie. Enfin, ça, c'est. Je vous donne juste un petit truc là pour vous donner envie. Mais je voudrais regarder un autre lieu où Jésus dit l'heure vient et c'est maintenant. C'est évidemment la rencontre avec la Samaritaine. Ce qui est intéressant dans la rencontre avec la Samaritaine, c'est la pédagogie de l'amour glorifié. C'est la pédagogie de la miséricorde. La pédagogie de la miséricorde, elle a 5 étapes. Première étape. Jésus, fatigué, s'arrête. Vous voyez, je vous disais, l'amour glorifié, le propre de l'amour glorifié, c'est d'utiliser la contradiction, d'utiliser ce qui lui est contraire. Eh bien là, la fatigue de Jésus va être l'occasion. Il va se trouver dépendant de cette femme, parce qu'il a soif. Et la fatigue et la dépendance vont être le moyen de la rencontre. Et il va dépasser les frontières, dépasser les codes sociaux pour aller à la rencontre de cette femme, première caractéristique. Il va à la rencontre de la femme comme il est allé à la rencontre de Judas. Il utilise la fatigue, il est assis, alors que la femme, elle arrive debout avec la supériorité de sa cruche. Lui, il est assis, fatigué, et il n'a pas de cruche. Et c'est justement dans cette infériorité de l'amour qu'il va pouvoir manifester sa miséricorde à la Samaritaine. Deuxième étape, lui qui est la source d'eau vive, il réclame à la femme, donne-moi à boire. Il se rend dépendant d'elle pour qu'elle se rende compte de la quête qui l'habite. Elle est capable de donner à boire à quelqu'un qui a soif. Et ça, ça lui permet de redécouvrir la soif qui l'habite. Troisième aspect de la pédagogie de la miséricorde, c'est d'éveiller en elle la curiosité. Elle éveille la curiosité, il éveille la curiosité. Tiens, serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob ? Et puis l'intérêt, ouais, donne-moi de cette eau-là, toujours. Et enfin, la vérité. Je n'ai pas de mari. Vous voyez, c'est étonnant, hein ? La curiosité, l'intérêt et la vérité. Comment est-ce qu'il va délicatement éveiller ce qu'il y a de vrai et de bon dans son cœur, elle qui croyait d'elle-même qu'il n'y avait plus rien de bon chez elle. C'est pour ça qu'elle ne voulait plus voir personne. Aller puiser de l'eau à midi, c'était le bon moyen de trouver personne. Ensuite, elle trouve quelqu'un. Quatrième point spécifique de la pédagogie de la miséricorde, c'est justement la manière dont il lui dit pas « c'est bien, c'est mal ». Oh, c'est mal, tu n'as pas de mari. Oh, celui que tu as n'est pas le tien. Oh. Ou alors de lui dire, bah ma pauvre fille, hein, ce n'est pas si grave. Hein. Ah ouais, hein, c'est 10 ans dans le pays liégeois, ça. Ça marque un homme. Hein. Et vous voyez, c'est ni accuser, ni diminuer, mais manifester la capacité de vrai qui est encore en elle. En cela, tu dis vrai. Voyez ? Manifester la blessure, manifester l'erreur, manifester le péché, mais surtout pour manifester sa capacité d'en sortir. En cela, tu dis vrai. Et du coup, donner accès au cœur profond de cette femme. Enfin, elle va pouvoir s'interroger sur l'essentiel. Nos pères nous disent que c'est sur le mont Garizim qu'il faut adorer, et vous dites que c'est à Jérusalem. Où est-ce qu'il faut adorer ? Retrouver le chemin de l'essentiel. Et voyez comment cette pédagogie de la miséricorde, elle va rendre vie à une femme en lui rendant sa dignité, en lui manifestant, en lui rendant accès à sa propre dignité. Et pour ça, il faut qu'il s'abaisse, comme il s'est abaissé devant Judas, comme il s'est abaissé à la croix, comme il s'est rendu dépendant, comme il s'est laissé enfermer pour libérer. Il libère cette femme en lui rendant accès à ce qu'elle est, dans ce qu'elle a de plus profond. Alors, peut-être, j'espère, vous êtes sans doute un peu perplexe, moi aussi. Mais j'espère que vous avez pu découvrir comment la révélation de l'amour jusqu'à la fin était la manière joannique de parler de la miséricorde. D'un amour souverain qui est capable de s'abaisser. D'un amour souverain qui est capable d'utiliser la contradiction. D'un amour souverain qui n'a pas peur du paradoxe. D'un amour souverain qui va aimer jusque dans sa chair, en lavant les pieds de ses disciples et en laissant son côté transpercé. L'amour glorifié, c'est un amour incarné. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin.
Merci beaucoup.